t'écoutais coûter, comme disait Gaston Couté, le gars qu'a mal tourné, de Main-sur-Loire à Montmartre, dans nos mémoires patoisantes, une poésie bonne à dire. Gaston Couté, poète et chansonnier, Victor Méric lui dit ainsi son adieu. Ce petit gars maigriot, au regard de flamme, aux lèvres pincées, était un grand poète. Il flagellait les tartufferies, magnifiait les misères, pleurait sur les réprouvés et sonnait le tocsin des révoltés.
Dans la série Documents, la radiodiffusion télévision française présente Il y a 50 ans sur la butte, ou présence de Gaston Couté, une émission de Francis Covert.
Il y a 50 ans sur la butte, Gaston Couté, poète beauceron, tâchait d'obtenir un nom, de se le faire. Il n'y mettait pas beaucoup de goût. Il avait trop de talent, il était incompris. Il y a 75 ans, Gaston Couté naissait. Gaston Couté mourait à 31 ans en 1911. C'est une explication suffisante de l'oubli où peut-être se trouve son nom. Or, quelques amis de Montmartre, quelques fidèles au souvenir de Couté, sont allés ces jours derniers sur la tombe du poète à Main-sur-Loire et je me suis joint à eux parce que, tout simplement, et je n'y ai aucun mérite, j'ai appris à connaître Couté dès mon tendre âge. Je suis orléanais, donc presque macdunois, et on sait qu'il vécut beaucoup à Main-sur-Loire. Je me suis donc joint aux fidèles de Paris, et là-bas j'ai retrouvé les fidèles de Main-sur-Loire. Et les fidèles de Main-sur-Loire, là-bas tout simplement, les fidèles du poète Beauceron, de ce poète maudit presque, mais ce sont de ses amis d'école, de ses copains d'école. C'est à eux que j'ai voulu poser des questions pour éclairer un peu une situation, mon Dieu, qui est injustifiée, car on le sait, Gaston Couté a beaucoup de talent. Gaston Couté, alors, a été évoqué par ses trois copains d'école, et je n'ai pas pu me défendre à l'instant de songer à la chanson du gars qui a mal tourné, que des amis pieux ont réalisé, car, en somme, il n'écrivit jamais de livres. Et de quelques œuvres éparses, des amis fidèles, parmi lesquels je soupçonne d'ailleurs Pierre Macorlan, qu'il a fort bien connu, ont groupé les meilleures choses de Couté. À cette heure, tous mes copains d'école, les seuses capernales ABC, et qu'écoutant les bonnes paroles, ils sont casés. Et ben casés, il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres qui sont commis épiciers, d'autres qu'à les protections du maire, pour avoir un poste d'employé, ça se laisse vivre comme mouton en plaine, ça s'est compté, pas raisonné. Je pense que quelquefois, et ça me fait de la peine, moi, chez un gars qui a mal tourné. À la vérité, Gaston Couté exagérait parce que il était tendrement aimé, et j'en ai eu la preuve à Main-sur-Loire précisément lorsque j'ai réuni dans un petit café de Main-sur-Loire trois de ses copains d'école qui, bien qu'ayant acquis une situation, sont restés fidèles à leur poète. Ainsi, j'ai posé des questions à ces trois personnes, et notamment au président des amis de Gaston Couté, Monsieur Denis, qui m'a répondu ce qu'il avait à me répondre.
Eh bien, moi, je l'ai connu naturellement d'abord à l'école, puisque il est arrivé à Main, il est rentré en classe et après son certificat d'études qu'il avait passé à l'école de Saint-Y. Et il est rentré au cours complémentaire, il n'avait guère d'aptitude pour les mathématiques. Ça, il n'y avait rien à faire. Le maître d'école, M. Petit-Berguin, à cette époque-là, s'acharnait pour faire plaisir à la famille qui était très bien avec lui d'ailleurs, s'acharnait à vouloir lui inculquer des notions de mathématiques, mais il était absolument réfractaire, il n'y en avait pas d'aussi incapable que lui au point de vue mathématique. Par contre, quand nous avions une rédaction à faire, alors on était tous surpris à la fin, le maître d'école nous sortait la rédaction de Gaston Couté, alors là, il y en avait plusieurs pages. C'était sans fin, c'était illimité.
Dans les temps que j'allais à l'école, où ce qu'on me voyait jamais bien au cou, je ne voulais pas en foutre un coup, je m'en sauvais faire des cabrioles, dénicher les nids des bissons, sublayer, en béquant des murs, qui me barbouilla toute la figure au lieu d'aller apprendre mes leçons. Ce qui fait qu'un jour, j'étais en classe, tombé d'yo, je pouvions pas me promener, le maître me dit, en s'élevant de sa place, « Ouais, t'en vinras à mal tourner. »
Il est sorti de l'école, madame, il est allé à Orléans, il était rentré à la Trésorerie Générale, où il avait peu d'aptitude aussi pour être avec des capacités mathématiques comme ça. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait rentrer à la Trésorerie Générale.
Il en est sorti d'ailleurs.
Il n'y est pas resté longtemps, s'est sauvé. Il a commencé déjà à Orléans à faire quelques apparitions de café-concert sur le mail au mois de juin.
Comme à la foire, comme d'habitude. Car somme pays, mon cher. Somme orléanais aussi.
Alors, sur la foire, il y avait cette année-là un concert
en plein air.
Provisoire. Non, il y avait une baraque. La Cigale. Intitulé La Cigale. Et mon Gaston Couté était au programme. Et alors ensuite, il est parti vers 98 ou 99, mais je crois que c'est plutôt
98.
Il est parti à Paris. Et là, il a monté sur la butte.
Exactement. Mais il a fait ses débuts dans un cabaret qui était mitoyen de celui de Bruant. Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur Gérondeau, vous qui êtes allé en classe avec lui, que vous l'aviez rencontré, Gaston Couté, au Quartier Latin, rue Champollion.
Moi, je connaissais Gaston Couté, je l'ai connu à l'école. Ensuite, j'ai fait mon service militaire à Paris, et à ce moment-là, il était à Paris, et j'avais l'occasion de le rencontrer de temps en temps. Je l'ai vu sur la butte, je l'ai vu dans bien des cabarets, avec des chansonniers.
Dites-moi comment il disait ses vers, ça m'intéresse.
Eh bien, c'était tout simple, il montait sur l'estrade, une estrade. Il montait simplement vêtu de sa petite veste de paysan, n'est-ce pas ? Son petit chapeau rond sur la tête, une éternelle cigarette qu'il jetait au moment de poser.
C'était un grand fumeur.
Une main dans ses poches, et il débitait ses vers gentiment, mais sans emphase. Il ne savait pas ce qu'on pourrait dire enflammer sa foule.
Oui.
Et dans ce qu'il disait, les gens, beaucoup de gens qui l'entendaient, ne savaient pas apprécier la profondeur de ses chansons.
Son raisonnement, bien entendu.
Son raisonnement.
Il ne le colorait pas suffisamment.
On l'a coloré et on s'en est aperçu plus tard. Parce qu'au fond, de toutes ses œuvres, il y avait une grande morale à retenir pour tous. Et ce que Gaston Couté a vu et ce qu'il a dit existeront encore dans 50 ans, malgré tous les progrès que l'on fera.
Alors, puisque tout se conserve, je vais demander à celui qui conserve le souvenir de Gaston Couté à Main-sur-Loire de me parler un peu. Monsieur Gaston Coutant.
Oui, eh bien, mon Dieu, je suis particulièrement chargé de conserver le souvenir de Gaston Couté à Main-sur-Loire, au musée Gaston Couté que nous avons installé dans l'une des salles de la mairie de Main-sur-Loire, il y a quelques années. Beaucoup de personnes ont répondu à notre appel, nous ont envoyé, se sont séparés même avec beaucoup de regrets, de documents qui concernent Gaston Couté, des poésies inédites, des manuscrits, enfin diverses choses que nous avons réunies dans une salle au premier étage et que des gens qui ont connu Couté et même d'autres viennent de temps à autre revoir avec beaucoup de plaisir. Comme je vis, pour ainsi dire, dans l'intimité de Couté, dans la salle de la mairie où nous avons installé ce musée, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à Couté vers 1900. Gaston Couté et un autre poète, Maurice Lucas, avaient été invités à villégiaturer à Gargilès, près de Châteauroux. Comme ils étaient démunis, comme d'habitude, du pécule nécessaire au paiement du prix d'un billet de chemin de fer, les deux amis décidèrent qu'ils feraient la route à pied, en vivant de leur talent de poète, auquel Maurice Lucas joignait celui de pastelliste instantané. Alors évidemment, l'allure hirsute et désordonnée des deux amis, leur mépris absolu du pouvoir et des contingences sociales n'était point un fait pour inspirer une confiance aveugle aux populations calmes et ordonnées qu'ils devaient côtoyer et dont, au surplus, ils devaient tirer le brouet quotidien. Il est probable, sinon certain, que ce long cheminement sur les routes de France où les deux poètes ont eu l'occasion de croiser de grandes croix de bois. Cette longue promenade a dû inspirer à Gaston Couté l'un de ses plus beaux poèmes qui s'appelle « Le Christ en bois ».
Le Christ, t'entends-tu mes boyaux chanter la chanson des moignons qui demandent à picoter quelque chose ? Le Christ,
T'entends-tu que je te cause et que je te dis que j'ai une fin de vœu? Tellement que si, pas devant nous deux. Il pensait que qu'un sur la route, pour un maillon, comme pour une croûte, il me semble que je fais un mauvais coup. Tout ça, c'est bon, mais c'est point tout. Après, ça serait en cour d'assises que je retrouverais. Et quoi que je dise, les idées que ça donne et l'effet que ça produit de pas avoir bouffé, tu ferais pas une démarche pour moi? T'as le ventre, t'as le cœur, t'as tout en bouée.
Maintenant, il faut dire également que Gaston Couté a trouvé à Main-sur-Loire un climat particulièrement favorable, puisque, comme vous le savez, la petite ville de Main-sur-Loire peut s'enorgueillir, à juste titre, d'avoir abrité trois grands poètes, y compris Couté. C'est d'abord Jean de Main, qui, sur les instances de Philippe le Bel, a été le continuateur du célèbre roman de La Rose. Plus tard, quelques 150 ans après, je crois, un autre poète, bien plus grand encore, le plus grand, pourrait-on dire, de tous les poètes, a séjourné à Main, oh bien contre son gré. Il s'agit de François Villon, qui avait été enfermé dans les prisons du château de Main par l'évêque Thibaud d'Auxigny.
Voyez-vous, pour terminer, alors on ne s'explique pas pourquoi Couté n'a-t-il pas, de son temps, été déjà ce qu'était, par exemple, un grand homme de cabaret, comme M. Bruand? C'est une question que je vous pose en ce moment.
Non, c'est inexact de dire que Gaston Couté n'ait pas eu, en son temps, tout le succès qu'il méritait. C'est si vrai que la première œuvre qu'il a récitée à Paris, je ne sais plus dans quel cabaret, je crois bien que c'est au Noctambule, eh bien, il a obtenu immédiatement un succès considérable. Ce qui ne veut pas dire pour cela qu'il a obtenu la richesse, parce qu'on le paye à ce moment-là d'un café crème. Il faut considérer d'abord...
Je pose la question, comprenez-vous, pour qu'elle soit résolue, tout simplement.
Il faut considérer d'abord que les cabarets, à cette époque-là, étaient fréquentés presque uniquement par l'élite intellectuelle, et les œuvres des chansonniers n'étaient pas aussi divulguées que maintenant. Alors, on peut expliquer par cela même que l'œuvre de Couté n'ait pas été propagée autant que celle d'Aristide Bruand, qui, lui, avait transformé en quelque sorte son œuvre en une affaire commerciale.
Certainement. Il avait des moyens physiques qui le mettaient à son service. Je suis sûr que ça avance.
Puis il savait mieux que Couté surtout flatter les gens tout en affectant de les enguirlander.
Exploiter le métier.
Il faut aussi souligner, je crois, pour être juste vis-à-vis de Couté, que Couté, mort en 1911, est mort relativement très jeune.
Au moment où la guerre allait
éclater. C'est cela. Oui, et au moment où il aurait pu, d'ailleurs, envisager... c'est cela. Non seulement une diffusion de ses œuvres, mais enfin une pénétration dans le public de ses œuvres.
Oui. Couté est en somme un peu l'un de ces hommes, comme disait je ne sais plus qui, de gaffe en gaffe s'en vont jusqu'à la gloire, alors que d'autres, d'habileté en habileté, s'en vont jusqu'à l'oubli.
D'oubli, il ne saurait en être question, précisément parce qu'il y a 50 ans, sur la butte Montmartre, Gaston Couté, présent, n'avait pas su imposer sa présence. Et le geste de ses amis de Montmartre, allant porter les jonquilles de la saison nouvelle sur sa tombe, a eu un sens symbolique. Au retour, chacun avait au creux de la main, symboliquement peut-être, mais un peu tout de même, de la mousse de cette sépulture. Et ils ont fait le vœu de faire à Couté d'innombrables et nouveaux amis. À propos, ce m'en est l'occasion, sachons que les amis de Couté ont leur siège à la mairie de Main-sur-Loire, ce qui nous permettra de gagner à ce jeu, à ce compte, de nouveaux souvenirs qui nous éclaireront sur la vie du poète. Au moins, cette émission n'aura pas été vaine de lancer le nom de Couté et de souhaiter qu'il fût démesurément grandi. En ce moment, précisément à Montmartre, puisque les gens de Montmartre étaient allés à Main-sur-Loire, à Montmartre, où nous sommes revenus, car nous étions allés à Main et nous sommes allés à Montmartre, sur la trace toujours de Couté, chez Valbert et Quérembrun, rue Nord-Orvin, il y a une manière de festival Couté, bien que le mot festival ne convienne pas à Couté, qui était la simplicité même. Et c'est là que j'ai subrepticement glissé notre micro devant des personnes attablées pour, d'une voix confidentielle, recueillir pendant le programme des impressions toutes neuves sur un homme dont la nouveauté va devenir constante. Une question en appelait une autre. Monsieur Tout-le-Monde, qui me répond et qui découvre Couté.
Mais mon Dieu, au milieu de tant de poésie frelatée, il inspire simplement la poésie sincère, il a su retrouver les rimes, retrouver l'essence de François Villon, très exactement.
Je demanderai maintenant tout de même, et c'est normal de faire honneur au Seigneur, Valbert, vous à qui on doit, avec votre ami Quérembrun, de faire quelque chose ici pour Gaston Couté, exprimez sur Gaston Couté ce que vous ressentez lorsque vous l'entendez dire, lorsque vous le ressentez vous-même.
Je dois dire que je ne connaissais pas le nom de Gaston Couté il y a 6 ans, et je connaissais ses œuvres. Je les ai appréciées.
Et comment aviez-vous eu connaissance de ça?
Ben, j'entendais souvent certains chanteurs qui chantaient les violons, qui chantaient...
Voilà, alors c'est au travers des chansons de Couté, qui jamais n'étaient d'ailleurs nommément désignées, que vous avez connu Couté.
Oui.
En effet, il a donné une leçon à tous les paroliers, et lorsque l'on l'y va danser, on a la substance d'une poésie qui, tout de même, est curieuse, car là, il n'est pas patoisant, alors que sa substantifique moelle est dans le patois. Un patois extrêmement intelligent et bien travaillé, comme si vraiment il avait davantage travaillé pour Boileau que pour les bords de la Loire. Et bien, quand même, demandant à Kerembrun, l'associé en bonnes initiatives de Valberg...
Moi, ce que je trouve merveilleux dans l'œuvre de Couté, c'est la justesse des expressions et la précision imagée du patois de Couté. Je trouve ça formidable, surtout dans les phrases comme « Alloué de la Saint-Jean », « Un fermier qui se racle des rentes », dans le champ de misère des pauvres gens, ça, je trouve ça magnifique au point de vue précision, au point de vue image. Je crois d'ailleurs qu'il y a vraiment que chez Mistral qu'on peut retrouver la même chose. Et en Bretagne...
Ah, vous faites plaisir.
Et en Bretagne, chez Gabriel Vicaire et chez Charles Le Goffic, qui sont nos deux plus grands poètes.
Ah, on sait que Kerembrun est breton, et comme je comprends très bien qu'il s'attache au calvaire et au poète, les deux mêmes êtres qui peuvent souffrir, et souffrant intensément, savent être sincères. Mais il arrive opportunément le maître du lieu, je dirais, de la butte, Pierre Labrique. Alors Pierre Labrique, mon cher Pierre Labrique, que je me permets de vous tutoyer, eh bien, tu vas me dire sur Couté et Sabrupto ce que tu penses, toi. Tu es le maire, tu représentes tout, tu as des opinions très nettes.
Oui.
Alors, Pierre Labrique, maire de la commune libre de Montmartre, vous parle.
Tu vas demander pour Gaston Couté.
Gaston Couté.
Eh bien, il habitait à l'hôtel Poirier, place Ravignon, avec Max Jacob et Jules de Paquis.
Alors, Jules de Paquis a passé la postérité, Max Jacob aussi, d'accord. Et Gaston Couté n'y était pas passé.
Ah, sûr.
Il n'y était pas passé, je dis la postérité. Ça ne voulait pas dire, tu comprends, l'amorce de la gloire, mais la postérité, c'est le définitif de la gloire.
Alors ensuite, Gaston Couté et Jules de Paquis ont habité Hôtel de la Marine, qui est devenu Hôtel du Tertre. Et maintenant, il y a encore une plaque face à l'église
Saint-Pierre. Ah, j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que l'immeuble a été sapé, bien entendu, mais la plaque reste. Ah, mais tout à fait d'accord. Et justement, c'est pourquoi on essaie de ressusciter le père Couté, si je veux dire le jeune Couté, car il était jeune quand il est mort.
C'était un grand bonhomme.
D'ailleurs, quelqu'un à main sur le bar me disait l'autre jour, ah, monsieur, c'était quelqu'un. Merci Pierre Labrique, en un mot, vous avez résumé tout ce qu'il y avait à dire de Couté. Je vais demander à Jean-Pierre Mottier, qui, je ne m'en défends pas, est un ami pour moi, et Jean-Pierre Mottier a sûrement sur Couté une pertinente considération à émettre.
Eh bien, mon cher Francis Cover, au risque de vous contredire un tout petit peu, je considère que Gaston Couté est surtout un chansonnier de génie, et non pas un poète de génie. Je considère qu'il a surtout fait une satire des mœurs paysannes.
François de Guelp, quelqu'un qui monte dans l'art de faire des chansons.
Moi, écoutez, je pense que c'est un poète, contrairement à ce que dit Jean-Pierre Mottier.
C'est
un poète.
On a en présence un poète maudit.
J'ai toujours beaucoup aimé les poètes maudits. Gérard de Nerval, l'autre et amour.
François de Guelp, merci de m'avoir dit qu'il était poète. Merci Jean-Pierre Mottier de m'avoir dit qu'il était chansonnier. Je crois qu'un chansonnier plus un poète, ça doit faire quelque chose d'extraordinaire. Et j'en cherche un.
D'où en fauchant le blé, on crevait de soif dans la plaine. Le corps en feu, je suis allé boire à plat ventre à la fontaine. L'eau froide m'a glacé les sangs, et je meurs par ce tendre automne où l'on danse devant la tonne durant les beaux soirs finissants. J'entends violon, Marie, va petit hôte que j'aimais bien. Moi, je n'ai plus besoin de rien. Va t'en danser à la frérie. J'entends le violon, Marie.
C'est Gaston Couté qui doit avoir le dernier mot, car la présence de Couté est manifeste. Manifeste dans les chœurs qui sont allés l'autre jour vers sa tombe, et puis manifeste en ce moment sur la butte. Vous en avez la preuve, la certitude. Mais Couté résume exactement son problème, et je crois que c'est la réponse à toutes les questions qu'on a pu poser pendant ces quelques minutes. C'est égal. Si jamais je retourne, un jour, reprendre l'air du patelin, où ce qu'à mon sujet les langues tournent, que ça en est comme des roues de moulin, eh ben, il faudra que je dise au gars tiré ou établi qu'a patrouillé dans la bêtise, la bassesse et la crapulerie comme de vrais cochons qui patrouillent. Faudra que je dise que j'ai pas mis le nez dans la pâté sale de yeux auge et que c'est pour ça que j'ai mal tourné.
Vous venez d'entendre « Il y a 50 ans sur la butte », une émission de Francis Cover consacrée à Gaston Coutet.
C'était une émission du 9 mai 1955.